Bonjour Hervé Gattegnaud.
Bonjour.
Après le vote de la loi sur l'immigration et la tempête politique qu'elle soulève, vous avez feuilleté la presse internationale. Elle n'est pas tendre pour Emmanuel Macron.
Oui, c'est le mérite de la distance. On distingue plus facilement l'essentiel sans s'égarer dans les détails. Pour le journal espagnol El País, bien que la loi ait été approuvée, son élaboration a remis en question l'essence du macronisme et il y aura désormais une photo de ses députés votant aux côtés de ceux de Marine Le Pen. Le New York Times estime que le président de la République a dû accepter un compromis humiliant avec la droite et voit dans cette séquence un signe supplémentaire du glissement de Macron vers la droite, comme dans une grande partie de l'Europe. Le Soir de Bruxelles évoque, lui, un tournant pour le quinquennat. Le journal suisse 24 heures juge que le président a sauvé l'essentiel, mais l'hebdomadaire allemand Die Zeit parle d'un échec politique qui obère la suite du quinquennat.
Et en France, les jugements sont à peine moins sévères dans nos journaux ce matin.
Emmanuel Macron est en une de la plupart des titres qui résume son interview d'hier à la télévision. Libération n'y a vu qu'un grand déni, La Croix un pari perdu. Les Échos citent le mantra du président « J'assume totalement ». L'Opinion renchérit, Macron assume et ne lâche rien, même s'il a dit que la loi lui paraît discutable sur plusieurs points. Le Parisien se demande si d'autres démissions de ministres sont à venir après celle du ministre de la Santé. Et le verbe « tenter » revient beaucoup dans vos journaux et montre les limites de l'exercice. Macron tente d'éteindre l'incendie, c'est dans la Charente libre. L'exécutif tente de juguler la fronde, les dernières nouvelles d'Alsace. Et Macron cherche à rassurer sa gauche, titre Le Figaro, dont l'éditorialiste proclame sèchement « Le roi est nu ».
Et la même formule « Le roi est nu » est reprise par le quotidien L'Opinion.
Souvent moins cruel avec Emmanuel Macron que Le Figaro, mais toujours bien informé sur les états d'âme macronistes, le journal L'Opinion lui souhaite son 46e anniversaire, c'est aujourd'hui l'anniversaire du président, en le décrivant plus seul que jamais. Avec cette question, Emmanuel Macron est-il encore macroniste? Les promesses originelles s'effilochent. N'est-il pas cynique de saisir le Conseil constitutionnel pour lui demander d'invalider des dispositions qu'on a incité les députés à voter, tout en leur disant qu'elles n'étaient pas conformes? De plus en plus, l'intérieur de la Macronie est persuadé que le pouvoir repose sur la psychologie d'un homme au creux de la vague. Jusqu'à présent, le système était discipliné. Personne ne disait « le roi est nu ». Désormais, certains commencent à parler. L'Opinion énumère les défections et frustrations parmi les proches et décrit une ambiance exécrable au sein du gouvernement depuis la démission d'Aurélien Rousseau.
On n'est trahi que par les siens. Le désormais ex-ministre de la Santé figure, Aurélien Rousseau, donc dans le palmarès que dresse l'hebdomadaire Le Point des plus beaux lapsus politiques de 2023. J'adore.
Ah oui, le 27 septembre, Aurélien Rousseau annonçait la prise en charge complète par la Sécurité sociale des préservatifs pour les moins de 6 ans. Il n'y a plus d'enfants, mais tout de même, c'était 26 ans. Dans un débat télévisé, la députée de la France Insoumise, Mathilde Panot, obsédée par son leader, a appelé Marion Maréchal « Madame Maréchon ». Et Alexis Corbière, autre insoumis, a confondu dans une interview Jean-Marie Le Pen avec Jean-Luc Mélenchon. Ah. Eh bien oui, grâce à l'inconscient, les extrêmes se rejoignent. L'écologiste Sandrine Rousseau, elle, a annoncé qu'elle prendrait part au défilé parisien du 12 novembre pour dire son soutien à l'antisémitisme, à la lutte contre l'antisémitisme. Il valait mieux rectifier en effet. Mention spéciale à la sénatrice Annick Billon, qui lors d'un débat en séance sur la pornographie a déclaré « Le nombre de signataires de la résolution constitue un record jamais atteint pour un sexe sénatorial ». Elle voulait évidemment parler d'un texte.
Les journalistes sont pas en reste. Je me souviens sur une chaîne concurrente d'une journaliste qui annonçait la circulation et au lieu de parler des grands axes, elle avait parlé des grands sexes. Aux États-Unis, un propos comme celui-ci aurait-il été interdit? Le Figaro raconte que la censure littéraire y est en pleine expansion.
On se pince à la lecture de cet article. Au pays de la liberté d'expression, écrit Le Figaro, l'édition est devenue l'un des centres névralgiques de la guerre idéologique et de la tenaille identitaire. Durant l'année scolaire 2022-2023, 3362 références de livres ont été interdites et retirées des milieux scolaires, universitaires et des bibliothèques publiques dans une quarantaine d'États. Le Figaro écrit que ce phénomène doit autant au zèle de parents d'élèves ultra-conservateurs qui exigent le retrait d'ouvrages jugés responsables de l'endoctrinement et du pervertissement des enfants que de la nouvelle gauche américaine adepte de la cancel culture qui fait écarter des livres au nom de l'antiracisme et de la lutte contre le patriarcat.
Et le Figaro cite des exemples d'ouvrages censurés.
Parmi les livres maudits, on trouve par exemple un roman qui évoque des adolescents tombant dans la prostitution ou L'œil le plus bleu de la prix Nobel Toni Morrison où une fillette noire rêve d'avoir la peau claire et les yeux bleus. Ou encore Le 1984 de George Orwell, pourtant un classique. Parmi les livres pour la jeunesse, le Figaro mentionne des romans abordant l'homosexualité et le changement de genre, ou l'adaptation en bande dessinée du journal d'Anne Frank, et même des comics de la série Batman, dont les images sont jugées trop violentes. La Floride, le Texas, l'Arkansas et la Virginie ont adopté des lois facilitant ce type de censure. Un juge de Virginie a statué récemment qu'un livre peut être jugé obscène s'il fait appel à l'intérêt lubrique pour le sexe et va au-delà des limites habituelles dans la description. Les bibliothécaires qui braveraient les interdits risquent désormais 2 500 $ d'amende et un an de prison. Pas un mot sur le Tartuffe de Molière.
Évidemment, mais il s'y reconnaîtrait. Tout cela aurait certainement amusé Georges Brassens, qui a été lui-même victime de la censure. Ses héritiers se disputent autour de ses archives.
Oui, Brassens a souvent eu affaire à la justice de son vivant à cause des textes gaillards de certaines de ses chansons. Mais voilà que son neveu, Serge Cazzani, qui est aussi son légataire universel, et la fille de son ancien associé, Pierre Onteniente, qui détient une partie de ses manuscrits, s'affrontent devant les tribunaux. C'est le Figaro qui raconte l'affaire. Le neveu veut offrir ses trésors à des musées, sa rivale veut les vendre. Une vente a été bloquée in extremis il y a un an et depuis, des lettres et des partitions restent sous séquestre. Problème, aucun inventaire n'a été fait à la mort de Brassens en 1981, ni depuis, malgré les demandes répétées du neveu, qui a fini par saisir aussi un juge pénal. Le Figaro signale qu'à 7, le musée Brassens connaît une nouvelle jeunesse, loin de cette bataille, et pour s'apaiser, on peut toujours réécouter Les Copains d'abord. Ça incitera peut-être ses héritiers à se réconcilier.
Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards. Et s'appelait Les Copains d'abord.
Il y a quelque chose de rassurant et de définitivement stable dans les paroles et la musique de Brassens.
Oui, passer de Molière à Brassens, c'est pas si mal.
Bah oui. Vive la langue française et vive Hervé Gattegno, qu'on retrouve demain pour la revue de presse à 8h30.